Et c'est le journal de Nicolas Creusel. Bonjour Nicolas.
Bonjour Amélie, bonjour à tous. À la une ce matin, le jour J à Tokyo, cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques à la mi-journée, mais une partie de la population japonaise reste hostile à ces Jeux et va manifester aujourd'hui. Au sommaire également, la fin d'un marathon à l'Assemblée nationale. Le texte sur le pass sanitaire a été voté au bout de la nuit. Certains professionnels du tourisme s'inquiètent de son application, notamment dans les refuges en montagne. Nous le verrons. Haïti enterre son président aujourd'hui, Jovenel Moïse, assassiné il y a 15 jours par un commando. On fera un point sur l'enquête. Et puis, comment lutter contre la chaleur en ville ? Eh bien, pourquoi ne pas déterrer des rivières qui avaient été enfouies pour permettre l'urbanisation ? Exemple avec la Bièvre au sud de Paris, la Bièvre qui se redécouvre et que les habitants redécouvrent.
Combien de candidats à droite pour la présidentielle ? Déjà deux après Xavier Bertrand. Valérie Pécresse est entrée officiellement dans la course hier et prend de court une partie de son camp. Michel Barnier, pas encore déclaré, lui, est notre invité dans 20 minutes.
France Inter.
Et cette fois, ça y est, avec un an de retard, la flamme olympique va bien illuminer Tokyo.
Cérémonie d'ouverture à la mi-journée pour des Jeux prévus à l'origine l'été dernier, mais reportés en raison de la crise sanitaire. Mais aujourd'hui encore, l'opposition d'une partie de la population japonaise reste vive, ce qui est rare d'ailleurs au Japon, surtout en période d'état d'urgence. Plusieurs manifestations sont prévues tout au long de la journée. Karine Nishimura.
Annuler les Jeux Olympiques, on n'a pas besoin de JO. Malgré l'état d'urgence en vigueur à Tokyo, ils étaient plusieurs centaines à hurler devant le siège du gouvernement métropolitain de Tokyo où la torche olympique devait arriver au même moment. La pandémie n'est pas la seule raison de la colère populaire des plus motivés. Leurs revendications vont au-delà et rejoignent celles d'autres manifestants ailleurs dans le monde.
Ce n'est pas seulement à cause du coronavirus que je suis contre. Les Jeux Olympiques ont perdu tout leur sens.
Ces Jeux Olympiques coûteront en tout entre plus de 13 milliards d'euros et 20 milliards selon les plus récentes évaluations, mais les Tokyoïtes en sont finalement privés, forcés de les regarder à la télévision.
Le gouvernement vole l'argent des contribuables pour ces Jeux Olympiques à vocation commerciale.
Thomas Barr, le président du Comité international olympique, et le premier ministre Yoshihide Suga sont les plus brocardés dans ces manifestations toujours très bruyantes, mais également très encadrées par de nombreux policiers. Tokyo, Karine Nishimura, France Inter.
Et côté français, Emmanuel Macron assistera tout à l'heure à la cérémonie d'ouverture à 13h, heure française, et seuls 80 athlètes défileront sur les quelques 378 que compte la délégation française. Ambiance particulière sur ces sites olympiques à huis clos et dans le village olympique. Il faut faire avec, dit le handballeur Michael Guigou, qui compte tout de même en profiter au maximum.
Il y a quand même cette atmosphère qui, heureusement, est présente. On a au village olympique une très très bonne énergie et qui fait beaucoup de bien. Et puis j'ai annoncé, ce sera ma dernière compétition aussi. Bien sûr, je profite. Alors je profite pas pleinement parce que ce sont des Jeux olympiques sous Covid. Mais malgré tout, c'est une atmosphère, c'est quelque chose, c'est des installations, c'est tout. Voilà, ce tout olympique, je le savoure bien évidemment.
Le handballeur français Michael Guigou pour ses derniers Jeux.
L'Assemblée nationale vote le pass sanitaire et l'obligation de vaccination pour les soignants.
Après une nuit blanche pour les députés, le projet de loi a été adopté un peu avant 6h ce matin. Il prévoit en outre l'isolement obligatoire pour les malades. Et puis après un couac dans la nuit, le gouvernement a réussi à faire voter en toute fin de séance l'obligation du pass sanitaire pour les patients non urgents. Passe qui sera aussi exigé pour aller visiter un malade à l'hôpital ou un proche en maison de retraite. Le marathon parlementaire va se poursuivre pour ce texte qui doit maintenant être examiné par les sénateurs et être définitivement adopté avant la fin du week-end. Dès le mois d'août, il faudra donc montrer son QR code pour aller au restaurant ou au bar, pour voyager en train ou bien encore pour aller dormir à l'hôtel, au camping et même dans les refuges en montagne. Et cette nouvelle obligation n'est pas sans poser de questions pour les gérants de refuges. On en compte 400 en France. Ils tournent à plein régime en ce moment, évidemment, dans les différents massifs français. Des milliers de randonneurs y font étape. Comment trier à l'entrée sans risquer de mettre en danger d'éventuels marcheurs qui seraient en difficulté ? Claire Chaudière.
Depuis 10 jours, Didier, gardien d'un petit refuge d'étape sur le Tour des Écrins dans les Alpes, tourne et retourne le problème dans tous les sens. Il sert quotidiennement des repas aux randonneurs. Le contrôle des passes sanitaires devrait donc, logiquement, dit-il, le concerner. Mais son application lui semble quasi impossible.
Par essence, un refuge, c'est un lieu d'abri. Dire à quelqu'un « je te fais pas rentrer », c'est de la mise en danger d'autrui. Si on est sur un itinéraire d'alpinisme, qu'on est à 3000 mètres au milieu d'un glacier, on peut pas se permettre de laisser une personne dehors. Je me vois mal toutes les personnes qui arrivent à les recevoir en leur demandant « est-ce que tu as ton vaccin ?» C'est une vraie interrogation.
Inquiétude relayée par le syndicat national des gardiens de refuge, Émilie Cardozo, sa directrice, mise sur la pédagogie et espère que des ajustements seront décidés pour répondre aux contraintes de l'altitude.
Le fait qu'on soit en site isolé, si cette obligation nous était impartie, on ferait tout pour communiquer très largement en amont et que les randonneurs soient bien au courant de façon à éviter ce genre de situation.
Avec, s'il le faut, en dernier recours, suggère-t-elle un isolement au sein même des locaux des marcheurs arrivant sans passe, option qui risque tout de même de s'avérer extrêmement compliquée à mettre en œuvre, lâche un gardien, selon la taille et la configuration des refuges.
Claire Chaudière.
À l'étranger, les obsèques du président haïtien aujourd'hui.
Jovenel Moïse a été tué le 7 juillet dernier par un commando armé. Deux semaines après sa mort, les États-Unis ont nommé un émissaire spécial chargé de superviser l'organisation des prochaines élections. La France a salué hier la formation d'un gouvernement de transition et appelé au dialogue pour une issue pacifique. Du côté de l'enquête, des questions demeurent toujours autour des commanditaires de cet assassinat. Valérie Crova.
Depuis l'attaque qui a coûté la vie au président haïtien dans la nuit du 7 juillet, l'enquête a progressé avec une vingtaine d'arrestations, dont plusieurs anciens militaires colombiens, reconvertis en mercenaires, accusés d'avoir fait partie du commando. Quatre responsables du service de sécurité de Jovenel Moïse ont également été incarcérés. On leur reproche leur passivité, alors que le chef de l'État haïtien a été abattu d'une douzaine de balles. La police s'intéresse particulièrement au chef de la sécurité présidentielle, qui a effectué plusieurs voyages en Colombie et en République dominicaine au début de l'année. Selon la police haïtienne, l'assassinat du président Moïse aurait été planifié depuis la République dominicaine voisine. Des avis de recherche ont par ailleurs été lancés contre un ancien sénateur farouche opposant du président Moïse, mais aussi contre un homme d'affaires, également trafiquant de drogue, et contre un ancien agent de l'unité anticorruption haïtienne. Tous les trois pourraient avoir joué un rôle et peut-être même être les commanditaires de l'attentat.
Les explications de Valérie Crova. Gérald Darmanin promet des sanctions exemplaires à tous les niveaux après les dernières révélations sur le féminicide de Mérignac. Shaïnès Daoud, brûlée vive par son compagnon au mois de mai, un mois et demi avant sa mort, elle avait porté plainte contre son mari qui l'a violentée. Et le Canard enchaîné a révélé cette semaine que le policier qui l'a reçu au commissariat venait lui-même d'être condamné pour violence conjugale. Un fonctionnaire pointé du doigt dans l'enquête interne qui parle d'un sérieux doute sur le soin apporté à l'enregistrement de la plainte. Un deuxième rapport d'inspection sera transmis la semaine prochaine au Premier ministre Gérald Darmanin en déplacement dans le Puy-de-Dôme hier.
Si effectivement il y a eu des fautes, je proposerai des sanctions exemplaires. Parce qu'effectivement, je crois que je défends assez la police nationale et je crois que je défends assez les policiers nationaux pour ne accepter aucun comportement qui soit déviant et qui porte atteinte à l'honneur de la République et à l'uniforme. Cela reste à vérifier. Le directeur général de la police nationale est resté à Paris. Il aurait dû nous accompagner aujourd'hui pour faire les enquêtes qui correspondent à l'article de presse que j'ai lu et que je prends très au sérieux. Si nous constatons qu'il y a eu un défaut d'organisation du service, et si pire encore, quelques fonctionnaires de police ont menti ou n'ont pas tout dit à l'inspection générale que nous avons commandée, j'en tirerai toutes les conséquences.
Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin.
Attention aux orages, Météo France place ce matin 14 départements en vigilance orange.
Pour des coups de tonnerre et des fortes précipitations, ça concerne la Bretagne, la Manche et tout le centre de la France, du Cantal à Lyon, des orages liés aux fortes chaleurs de ces derniers jours et à l'arrivée d'un front d'air plus frais en provenance de l'Atlantique. Et avant ces orages, il va continuer à faire très chaud aujourd'hui, chaleur toujours pénible à supporter quand on est en ville. Alors pour rafraîchir les zones urbaines et remettre un peu de nature au milieu du béton, les projets pour déterrer d'anciennes rivières enfouies se multiplient. Exemple dans la banlieue sud de Paris, où coulait jadis la Bièvre. Des tronçons de cette petite rivière sont en train d'être remis à ciel ouvert dans plusieurs communes. C'est le cas à Arcueil, Sandy Dauphin.
Certains anciens d'Arcueil se souviennent que dans leur jeunesse, ils pouvaient se baigner dans la Bièvre. Cette petite rivière a été recouverte dans les années 50, enfouie dans une canalisation. Benoît Kayser, chef du projet Renaissance de la Bièvre à Arcueil pour le conseil départemental.
En fait, ici, c'est l'ancienne canalisation qui enserrait la Bièvre. La Bièvre était dans ce sarcophage et coulait de manière enterrée. C'était une rivière complètement oubliée.
Aujourd'hui, des ouvriers cassent des parties de son sarcophage. À l'époque, on a recouvert la Bièvre parce que c'était presque devenu un égout à ciel ouvert.
C'était un progrès sanitaire. La rivière était polluée. énormément d'industries étaient proches de Paris, tanneurs, blanchisseries. Ils avaient de l'eau de source et ils rejetaient toutes leurs eaux polluées vers la rivière.
Début 2022, la Bièvre devrait couler de nouveau à Arcueil, à ciel ouvert, sur 600 mètres. Le but est d'amener de la nature et de la fraîcheur dans ce fond de coteau situé sous le viaduc de l'autoroute A6.
À la place de la canalisation, on a fait un lit de rivière, on a recréé un lit de rivière. À terme, ici, il y aura une végétation typique avec des saules. L'objectif de cette rivière, c'est la reconquête du milieu naturel. C'est venir refaire de la nature en ville. Et aussi, dans ces villes bétonnées, l'eau est un élément qui peut rafraîchir la ville.
Jusqu'en 1897, la Bièvre se jetait dans la Seine, à Paris, à côté du pont d'Austerlitz. Un projet pour déterrer une petite partie de l'ancienne rivière dans la capitale est à l'étude.
Le reportage Sandy Dauphin que vous retrouvez également sur franceinter.fr.
On avait perdu leurs traces depuis deux siècles. Deux tableaux de Fragonard sont exposés depuis hier à Montpellier.
Et Fragonard, c'est l'un des plus grands peintres français du XVIIIe siècle. Ces deux tableaux, le jeu de la palette et la bascule, ont été acquis par le musée Fabre de Montpellier grâce à des aides, notamment de l'État, mais aussi du Louvre. Et les Montpelliérains et les touristes aussi en vacances dans l'Hérault peuvent donc aller les admirer. Sébastien Garnier.
Ces deux tableaux d'un peu moins d'un mètre carré ont été retrouvés en 2017 dans l'Orne lors d'un inventaire de succession dans un château. Un expert les a remarqués sur un mur, raconte Michel Hilaire, le directeur du musée Fabre.
Il a tout de suite été attiré par la qualité de ses œuvres qu'il a expertisé et il a redécouvert que finalement ces deux tableaux étaient bien les tableaux mentionnés en 1786 lors d'une vente et dont on avait perdu la trace depuis plus de 200 ans.
Le jeu de la palette et la bascule ont été peints vers 1760-1765. Pour empêcher que ces œuvres quittent la France, l'État les a classés trésor national. On y voit des personnages jouant au milieu de ruines antiques, mais pas que. La ministre Roselyne Bachelot a pu les admirer de très près. Elle invite les visiteurs à en faire de même.
Derrière le paysage qu'on voit au premier abord, il y a toutes sortes de petits paysages, de personnages coquins. Ce sont des toiles un peu libertines, je les engage à venir les voir, ils et elles vont se régaler.
C'est donc l'un des plus grands peintres du 18e, un maître du rococo qui entre au musée Fabre, qui possède peu d'œuvres de cette période, une reconnaissance aussi pour les musées de province.
Et ces tableaux, Sébastien Garnier, resteront à Montpellier pendant 3 mois.
C'était le journal de Nicolas Crozel, merci à vous et bonne journée.